Chers auditeurs et amis, bonjour. Dans le cadre des émissions que nous préparons régulièrement sur des sujets en relation avec la guerre d'Algérie, nous sommes fréquemment amenés à consulter les sites internet pour y retrouver plus rapidement des dates, des informations, des documents. Chaque fois, je devrais pourtant y être habitué avec la presse écrite, mais là c'est encore plus marqué, on y découvre une orientation de la très grande majorité d'entre eux quasi systématiquement à charge contre l'armée française. Si nos prétendues exactions sont très complaisamment présentées, évoquées, il faut bien chercher pour trouver celles du FLN. Quant au massacre des Harkis, c'est pratiquement seulement sur leur site ou sur ceux des Français d'Afrique du Nord qu'on en parle. Mais ce qui est spectaculaire, c'est la place qui occupe la torture, présente massivement à longueur de sites et de documents, alors qu'elle n'est, oserais-je le dire, qu'un point de détail dans un conflit qui a fait par ailleurs des dizaines de milliers de victimes dans les deux camps. On peut évidemment comprendre que ce sujet soit objet de débat, en particulier chez les chrétiens. À lire d'ailleurs absolument sur ce sujet le livre du Père Casta, publié récemment à l'Esprit du Livre. Son titre « Homme de Dieu, homme de guerre ». Il comprend, outre la biographie de l'auteur, aumônier parachutiste, vétéran de la Deuxième Guerre mondiale, d'Indochine et d'Algérie, la réédition du drame spirituel de l'armée, publié en 1962, qui traite justement du chrétien dans la guerre révolutionnaire et qui aborde ce problème avec profondeur, en prêtre et en soldat. Cette floraison d'articles orientés n'est pas une contribution à l'histoire ou l'expression d'émotion, de réflexion, d'indignation parfaitement compréhensible, particulièrement dans les générations qui n'ont pas connu ces périodes rudes et qui sont, c'est la mode, tentées par l'angélisme. Il s'agit à l'évidence de bien autre chose, de campagnes de manipulation de l'opinion visant à discréditer des adversaires politiques, idéologiques. Ou alors, si ce n'était pas le cas, il faudrait, je me reproche déjà ma naïveté, que soient présents sur ces sites, en contrepartie d'élémentaires vérités, les éléments positifs au crédit de l'action de l'armée française en Algérie. Mais le tollé suscité par la loi sur les aspects justement positifs de la colonisation et son retrait rapide en désordre marque bien les limites de l'exercice. J'ai également longuement cherché dans la filmographie sur cette période, je n'y ai pas trouvé la moindre trace de notre film « Le destin d'un capitaine », l'histoire d'un officier SAS en Grande-Kabylie. Rassurez-vous, ceux à la gloire des déserteurs et des porteurs de valises sont tous là. Pour lutter contre cette désinformation systématique et rétablir autant que faire se peut la vérité sur notre histoire, nous avons, dans le cadre du Secours de France, notre association, décidé une nouvelle mission que nous avons appelée « La vérité sur nos combats ». Elle a déjà abouti, entre autres, à la production du livre et du film cité plus haut. Merci d'avance de nous aider à continuer en soutenant cette association. À Radio Courtoisie, dans ce libre journal, nous apportons régulièrement notre contribution à cette remise à l'endroit de l'histoire. Comme aujourd'hui, ou à contre-courant de ces condamnations, notre émission sera consacrée à l'action magnifique menée par l'armée française en faveur des populations. Ce fut le cas de tous ces médecins et instituteurs du contingent, celui des SAS, celui des MCI et de bien d'autres qui ont rempli cette mission généreuse au péril de leur vie. Avec le général Codet et Patrice Boissy, notre ami du Secours de France, nous avons en effet invité, le général Maurice Fèvre, historien, membre de l'Académie d'Outre-mer, auteur de nombreux ouvrages sur l'Algérie, dont justement, l'action sociale de l'armée en faveur des musulmans, 1830-2006, qui vient de sortir chez l'Harmattan. Invité également, Georgette Brett. Elle est présidente des anciennes MCI. Les MCI, ce sont les équipes médico-sociales itinérantes. En Algérie, elle était responsable MCI de la zone sud-algéroise. Notre troisième invité, Aline Mayout. MCI au secteur Alger-Sahel, Elle est née Hadj Ben Ali. Donc, c'est une chrétienne de père Kabyle et nous allons avoir l'occasion de l'interroger sur cette situation un peu particulière. Alors, mon général, vous êtes une des personnalités les plus compétentes et reconnues sur le dossier de la guerre d'Algérie. Loin des imprécations, vous voulez d'abord un historien et les archives constituent vos références principales. C'est ce qui donne à ce que vous dites et écrivez sur le sujet un poids particulier. Vous êtes certes un homme d'engagement, mais vous êtes d'abord et surtout un témoin au plus près de la vérité. Comment expliquez-vous la place prise dans le débat par la guerre d'Algérie 50 ans après et la façon très orientée, quasi uniquement à charge, dont on parle du rôle de l'armée dans ce conflit?
Je voudrais revenir, si vous voulez bien, à la définition du mot « désinformation ». Il faut savoir que ce mot n'existe dans le dictionnaire français que depuis 1954. Par contre, il était employé couramment en Union soviétique sous le terme de « désinformatia ». Et il désignait les mesures actives, officielles ou clandestines, destinées à influencer les pays étrangers. Il y a donc, je pense, une certaine filiation dans ce procédé communiste de l'Union soviétique et les associations anticolonialistes, antimilitaristes qui actuellement s'attaquent à l'armée.
Cette filiation, donc, elle a comme fil rouge, je dirais, le marxisme.
Le marxisme, tout à fait.
Alors, justement, alors qu'on vient d'en parler, parmi ces forces idéologiques qui sont à l'origine de ce qu'il faut bien appeler, ce que vous appelez de la désinformation, il y a qui? On y trouve quoi? Alors moi, j'en ai noté quelques-uns. J'y trouve les marxistes purs. Il y a des mouvements libertaires, révolutionnaires, avec également le fil rouge du marxisme.
Bien sûr.
Et puis, il y a aussi d'autres. Il y a aussi les chrétiens. Des chrétiens dits de gauche, alors, qui sont-ils?
Alors là, la désinformation sur la guerre d'Algérie a été relancée, je dirais, dans les années 2000, par des articles du journal Le Monde. Et en particulier avec l'interview d'une nommée Iguilaris, qui était une Algérienne qui avait travaillé comme agent de liaison pour le FLN et qui a prétendu qu'elle avait été torturée par le général Schmitt en particulier. Or, cette fille est passée, le général Schmitt évidemment a porté plainte, et il a gagné tous les procès que Madame Louisa Iguilaris avait intenté contre lui. Et alors, dans la suite de cette action médiatique lancée par Le Monde, on a trouvé un certain nombre d'auteurs. Je pense en particulier à Rotman, qui a fait un premier film sur l'ennemi intime, qui était un documentaire, et auquel d'ailleurs j'avais participé. Monsieur Rotman m'a interrogé pendant plus de 2 heures, il m'a filmé. Et il en a retenu une phrase, qui l'a ressortie 2 fois d'ailleurs. Parce que mon témoignage contredisait tous les témoins qui avaient été reçus auparavant par M. Rotman, tels que Pouillot, enfin, etc. Et ensuite, vous avez des personnalités qui sont intervenues dans ce débat. Je pense à une académicienne récente qui s'appelait Assia Djebbar, une Algérienne qui a été élue à l'Académie française et qui a fait un discours tout à fait orienté en disant que l'Algérie avait été dépossédée, déstructurée par la France, désarabisée, et que dépossédée de ses richesses. Alors, je ne sais pas de quelles richesses on a dépossédé l'Algérie, mais je ne pense pas que ce soit du pétrole, puisqu'on a laissé des sources de pétrole importantes, et déstructurées. Je ne vois pas comment on aurait déstructuré ce pays qui avait besoin de notre aide. Alors, désinformations qui ont été lancées en particulier par le cinéma ou la télévision. Il y a eu le film indigène qui était très orienté également, qui avait des points positifs mais beaucoup de points négatifs. Il y a eu d'autres films comme la bataille d'Alger, qui était une reprise de, du film de Pontecorvo italien, mais avec un, dont le scénario avait été fait par le terroriste en chef Yacef Saadi. Il y a eu des films de filles de Harki, en particulier de Dalila Kerchouche, sur le, qui mélangeait la fiction et la réalité, et qui était tout à fait tendancieux. Et puis il y a eu également, sur la troisième chaîne, un film qui s'appelait « Les porteuses de feu », où on faisait l'éloge des filles qui avaient déposé des bombes dans la ville d'Alger. Voilà. Alors, à la suite de ça, il y a eu d'autres campagnes, et je pense en particulier aux campagnes lancées par la Ligue des droits de l'homme, qui a été lancée en octobre de l'année dernière, où il y a eu tout un mois de manifestations dans les salles parisiennes, dans des colloques, des films, des échanges de vues, des photos, des expositions. Et ceci a été repris encore cette année, à deux occasions, le 19 mai à la mairie de Paris, sur la colonisation, et récemment, le 29 mai, à la Cité nationale de l'histoire de l'immigration.
Ça, tout cela tend à laisser à penser que les Harkis, et ceux parmi les Algériens qui avaient pris fait et cause pour la France, étaient non pas les victimes des adversaires FLN, mais les victimes de la colonisation.
Tout à fait.
C'est de ça qu'il s'agit.
Alors la désinformation, elle touche différents thèmes. On a parlé de la torture, effectivement, c'est un des thèmes les plus importants de cette désinformation. Mais il faut savoir que les études qui ont été faites récemment sur ce problème montrent que si la torture a existé, et il ne faut pas le nier, elle n'a touché qu'une faible partie des effectifs des prisonniers algériens. En particulier, les études qui ont été faites par le Comité international de la Croix-Rouge à Genève, qui avait des délégués dans toute l'Algérie et qui a visité plus de 400 lieux de détention en Algérie, arrive à un chiffre inférieur à 20% de prisonniers qui disent qu'ils ont été torturés. Donc ça relativise un peu le problème, puisque il y a eu une thèse célèbre de Mme Raphaël Branche qui prétendait que la torture était généralisée et banalisée, c'est le terme employé par le professeur Geoffrey. Alors, je voudrais, en traitant ce problème de la torture, je voudrais signaler qu'un grand nombre des prisonniers célèbres qui ont été faits par l'armée française n'ont jamais été torturés. Je pense au cas de Yacef Saadi, je pense au cas de Zohra Drif, la sénateure d'Algérie qui est venue faire des émissions en France et qui a déclaré en septembre 1957 qu'il n'y avait plus de torture à Alger. Hein, c'est elle qui le déclare. Vous avez le cas de Ben Midi, un des premiers responsables FLN, il n'a jamais été torturé, le Bachaga Boutalem non plus. Jimmy Labouired, elle n'a jamais été torturée. Elle a reçu deux gifles de la part du capitaine
Graziani.
Hein, et à partir de là, elle a dénoncé ses collègues. Hein, de même, Ali Moulay, qui était le chef de Higelaris, Jimmy Labouaza, enfin, un certain nombre de personnalités n'ont jamais été torturées. Et je pense, moi aussi, j'ai déclaré, j'en suis de plus en plus persuadé, mais je n'ai jamais pu le prouver, c'est que Alleg, le célèbre Alleg qui a écrit ce livre sur
la
question, à mon avis, n'a jamais été torturé. Il a reçu lui aussi deux paires de gifles de la part d'un capitaine.
Ce dossier de la torture est un dossier dont on va parler indéfiniment, et on peut y revenir, mais il est en général accompagné de viols, parce que le viol c'est encore plus fort. Bon, enfin moi pour avoir traîné un certain nombre d'années sur le terrain, je n'ai pas eu souvenir d'en avoir vu.
Alors parmi les autres thèses de désinformation, il y a effectivement l'histoire des Harkis. Les Harkis se sont heurtés à un triple silence. Le silence du FLN, bien sûr, qui est pour eux, les harkis n'existent pas, puisque tout le peuple algérien était derrière le parti de l'indépendance. Mais il y a eu le silence de l'armée du gouvernement français, parce qu'il ne fallait pas dire qu'on les avait abandonnés. Et puis il y a eu le silence des harkis eux-mêmes, qui se sont trouvés abandonnés de leur côté et qui ont hésité à raconter leur histoire.
Alors, qu'est-ce qui vous a déterminé à écrire sur l'action sociale de l'armée ? Je dirais, non seulement pendant la guerre d'Algérie, mais plus largement en faveur des musulmans, ce qui recouvre une période plus large, y compris les années récentes en faveur...
Vous savez qu'il y a eu cette loi du 25 février 2005 où il y avait un article qui évoquait les aspects positifs de la colonisation. Alors, sur le terme de colonisation, je voudrais faire une remarque. C'est qu'on parle beaucoup de colonialisme, et le colonialisme, c'est comme la désinformation, c'est un mot qui n'existait pas à l'époque au XIXe siècle. Il a été inventé, je crois, en 1920, quelque chose comme ça. Et donc, le colonialisme, c'est une invention des anticolonialistes. Et nous sommes plutôt partisans du terme colonisation, et le terme colonisation a deux fonctions, suivant les auteurs, les historiens les plus célèbres. Je pense par exemple à Henri Brunswick. Il considère la colonisation comme un mouvement d'occidentalisation du monde à partir des nations européennes qui disposaient des techniques les plus perfectionnées, de façon à transformer, à faire progresser l'ensemble des nations du monde. Et puis alors, il y a la deuxième acception de la colonisation, c'est celle des Européens, et c'est une acception qui est républicaine, je dirais. Et je pense à la formule de Victor Hugo. Victor Hugo dit, dans un discours de 1879, excusez-moi, un peuple éclairé va trouver un peuple dans la nuit. Vous voyez, c'est donc... la formule est très belle. Et cette formule, en fait, a été reprise par Jules Ferry, qui a pris une part active au développement de l'Algérie, mais aussi de la Tunisie et de l'Indochine, et qui est célébré comme le plus grand ministre avec Colbert de notre histoire coloniale. Alors, on retrouve la même exception dans une déclaration de Jules Ferry qui dit « Il faut dire ouvertement que les races supérieures ont un devoir vis-à-vis des races inférieures ». Alors cette formule, évidemment, apparaît aujourd'hui un peu raciste, mais son idée, c'était effectivement d'apporter le progrès et la civilisation occidentale à des pays un peu arriérés. Et la même formule est reprise en 1925 par Léon Blum. C'est quand même une référence. Léon Blum prend la même formule, nous admettons le droit et même le devoir des races supérieures d'attirer à elles celles qui ne sont pas parvenues au même degré de culture et de les appeler au progrès réalisé grâce aux efforts de la science et de l'industrie.
C'est là que la Halde, dans ses temps maintenant, voilà. Il irait en prison pour quelques années.
Exactement.
Bien. Donc quand même, alors, plus sérieusement, puisque tout ça, il faut rappeler que toute cette période, Léon Blum, bien sûr, on connaît, mais Jules Ferry aussi, pour ceux qui l'ignoreraient, c'est la gauche de la Troisième République qui a fait la promotion, qui a poussé à la colonisation.
Tout à fait.
C'est comme ça.
Tout à fait.
Autre temps, autre mœurs. Bien. Et en ce qui concerne la période, disons, avant la guerre d'Algérie, puisque votre livre porte sur l'action sociale de l'armée, qu'est-ce que, en gros, s'est passé le plus à ce titre-là ?
Alors, si je pense qu'il faut repartir de la conquête de l'Algérie 1830, où le gouvernement français avait institué un aga des Arabes, c'est-à-dire un représentant des Arabes à Alger, qui était chargé de les représenter auprès du gouvernement. Et ensuite, en 1844, le général Bugeaud a créé les bureaux arabes, qui avait une action très importante sur le plan économique et qui avait pour but en particulier de sédentariser les nomades. Alors, il faut noter également, dès le 19e siècle, une action médicale qui a été très importante, parce que quand les troupes qui ont débarqué en 1830 sont arrivées avec 270 officiers de santé et ont créé immédiatement 4 hôpitaux avec 2500 lits qui étaient initialement destinés aux militaires, mais qui ont été rapidement admis, ouverts aux populations algériennes. Et cette action s'est poursuivie, en particulier au Sahara. Il y avait 70 médecins au Sahara qui sont restés, d'ailleurs, grâce à un protocole signé après l'indépendance de l'Algérie en 1963, l'Algérie a admis que les médecins militaires continuent à s'occuper des populations algériennes. Ils ont cependant été remerciés en 1976. Donc, il y avait au Sahara donc 70 médecins et 135 dispensaires. Et il faut noter également qu'un certain nombre de médecins se sont fait connaître par leur découverte. Ils ont fait avancer la science médicale. Je pense au professeur Maillot, à Lavran, à Vincent, à Follet, à tous ces grands médecins qui ont fait avancer la science coloniale. Alors, une autre action sociale de l'armée, c'est la promotion qui a été réalisée par l'armée d'Afrique. L'armée d'Afrique, en effet, a permis à des gens qui n'étaient pas très évolués d'acquérir une certaine culture, une certaine aisance et de se remarquer par la fidélité à l'armée, la fidélité à la nation française et la fidélité au chef. Et dans cette même ligne, vous trouvez la création des amitiés africaines par le maréchal Franchet d'Espéret, après la guerre de 14, qui était une organisation constituée de dar et lascris, c'est-à-dire des maisons du combattant dans lesquelles les anciens combattants étaient recueillis et étaient aidés. Voilà en gros, si vous voulez, l'action sociale de l'armée au 19e et jusqu'à la guerre de 1945. Il faut noter également les principes de pacification qui ont été mis en œuvre par Gallieni ou Lyoté, pour lesquels leur idéal, c'était non pas de détruire les villages, mais de les reconstruire et de créer des marchés et des écoles partout, suivant la politique de la tache d'huile. Alors,
à l'époque 1954, c'est-à-dire au début de la rébellion.
Oui.
Alors, il y a un certain nombre d'initiatives qui sont prises, en particulier dans les Aurès avec le général Parlange.
C'est cela.
C'est le début de
Alors,
ça.
Donc, le général Parlange va être nommé commandant civil et militaire des Aurès Nemancha, et il va faire venir des officiers des affaires indigènes du Maroc qui vont prendre en main les affaires politiques, enfin les civiles et militaires dans le département de l'Aurès et des Nemancha. Et cette initiative de Parlange sera reprise par le gouverneur Soustel, qui va créer en 1956 les affaires algériennes et en particulier les sections administratives spécialisées, les SAS, qui vont donc prendre en main un certain nombre de communes dans toute l'Algérie. Il y aura plus de 700 SAS qui seront installés dans le bled et une trentaine de SAS qui seront installés dans les villes, qu'on n'appelle pas des SAS d'ailleurs, qu'on appelle des SAU, des sections administratives urbaines. Donc ça c'est une partie de cette promotion. Il faut noter également l'action, on en reparlera tout à l'heure quand les MC interviendront, c'est l'émancipation de la femme. Je pense que
c'est
un problème important. La création de la section de formation de la jeunesse algérienne qui a comporté 350 officiers et 4500 moniteurs qui étaient formés en particulier à Issoire et des femmes qui étaient formées à Nantes et qui a été dirigée successivement par le général Gribius Et par, ensuite, par le général Dunoyer de Segonzac. Le général Dunoyer de Segonzac, c'est une figure, on l'appelle le vieux chef. C'est ce, cet officier qui, en 1940-41, avait été chargé à Histoire, pas Histoire, à Uriage, pardon, de créer une école de formation de cadres pour faire générer une, l'élite de la nation française. Et dans, dans cette école d'histoire, on a eu des personnalités telles que M. Paul Delouvrier et M. Hubert Beuve-Méry, le futur directeur du Monde, qui donc a été formé par un militaire dans ce stage d'Uriage. Et c'est intéressant de Dunoyer. Alors, on parlera de Dunoyer de Segonzac, parce qu'ensuite, c'est lui qui a été chargé des camps d'accueil en métropole.
Donc, il avait comme adjoint, je crois, le colonel Dumière. Henri
Exactement.
Dumière. Alors, le colonel Dumière, oui, donc, qui vient de sortir un livre, un énième livre, parce qu'il en a fait, il en a écrit beaucoup, publié pas mal. D'accord. Mais le dernier livre remarquable que j'invite à acheter, c'est Servir. Servir, mais je ne connais pas, je n'ai pas sous les yeux l'éditeur. Mais bon, on éventuellement le redira. Servir du colonel Henri Dumière, donc, qui était un des en charge de, ces, de ce genre de mission. Bien, alors, on va en arriver à une mission dans laquelle nos deux invités ont été engagés, c'est celle des équipes médico-sociales itinérantes. Alors, Georgette Brett, vous assurez actuellement la présidence de ces anciennes, qui forment une équipe très soudée, j'en connais un certain nombre, et je dois dire que c'est tout à fait chaleureux et vivant, cette communauté de femmes qui a accompli une mission merveilleuse. Alors, dites-nous, c'est quoi les MC que c'était cette organisation, ses buts, ses missions, l'autorité de tutelle, voilà.
L'armée française s'était rendue compte qu'en période de pacification, il ne pouvait pas parler aux femmes musulmanes. Donc, ils cherchaient un petit peu ce qu'ils pouvaient faire et ils ont eu l'idée, avec 40 PFAT, de faire une opération pilote qui, elles, se sont adressées aux femmes. Et comme ça, il y a eu de très bons résultats, ils ont pensé qu'il fallait augmenter le nombre d'MC. Mais on ne pouvait pas mettre toutes les PFAT MC. Et il se trouvait que l'éducation nationale qui formait des ASRA, adjointes sanitaires...
Alors ASRA, parce que si vous commencez, voilà. C'est comme dans les...
Non, mais je dis ce qu'il y a. Adjointes sanitaires, sociales, rurales, auxiliaires, formées dans des camps, ouais, dans des centres d'enseignement. On a eu beaucoup d'MC, d'ailleurs, formés dans ces centres. Et elle travaillait dans les dispensaires, mais avec l'insécurité qui se passait en Algérie, donc elle ne pouvait pas travailler dans les petites villes et dans le bled. Donc l'armée a demandé si elle pouvait prendre ces 300 postes qui n'étaient pas occupés, ce qui a été décidé au gouvernement général en Algérie. Donc on a pu recruter des civils. Alors des civils de pieds noirs d'Algérie, des musulmanes d'Algérie et des métropolitaines qui venaient aussi pour travailler dans les MC. Alors l'MC était une équipe qui était composée de deux filles au minimum, une métropolitaine, une pieds noirs, une musulmane, et puis des arquettes. Alors ça, c'est, les arquettes, c'était un peu spécial, c'était des filles qui souvent n'étaient pas allées tellement à l'école, que l'on prenait sur des crédits arquis et que l'on formait. Et moi, j'ai eu trois ou quatre arquettes que j'ai pu nommer ASRA, d'ailleurs, parce qu'elles étaient très, très compétentes.
Elles nous servaient souvent d'interprètes. Elles nous servaient souvent d'interprètes.
Ah ben oui. Surtout pour les métropolitaines et quelques pieds noirs qui ne parlaient pas arabe. Hein. Sinon, elles étaient vraiment très, très bien. Et alors, l'MC était itinérante, c'est-à-dire qu'elle travaillait dans un douar. Par exemple, dans ma zone sud-algéroise, l'MC allait le lundi dans un douar, le lendemain dans un autre douar, elle faisait 6 douars dans la semaine, et elle revenait la semaine d'après dans le même douar. Elle travaillait d'abord avec le médecin militaire où elle faisait la MG, c'est pour ça qu'avec leur blouse blanche...
L'assistance médicale gratuite.
Ah oui, d'accord, oui. Qui a été fait beaucoup par les médecins militaires. Donc on avait une blouse blanche avec notre insigne, et la population nous appelait Toubiba. Bon. Et donc, dans ma zone, le matin, elle faisait l'AMG. L'après-midi, elle avait des foyers. Alors, des fois, c'était sous la tente. Des fois, c'était une baraque en bois. Des fois, c'était quelque chose en dur. Elle faisait des leçons d'hygiène, de puériculture, de tricot, de couture. On parlait aussi sur la loi, la nouvelle loi du mariage. Hein, et ça, les femmes étaient très contentes de venir et de discuter.
On va développer ça ensuite voilà. dans l'émission.
Voilà.
Bien, Aline Mayout, vous, votre cas est un peu particulier, je l'ai dit en préambule. Vous êtes née en France.
Oui.
D'une mère française.
Oui.
Et d'un père kabyle.
Oui, algérien.
Algérien kabyle. Votre nom est de jeune fille Ben Ali. Et vous avez rejoint l'Algérie à 17 ans, envoyé chez une tante kabyle. Et vous avez ensuite, vous êtes ensuite restée là-bas.
Voilà. Oui. Je me suis mariée là-bas. Je suis partie en 62, mais je suis revenue 3 mois après avec mon mari, qui était obligé pour son travail de retourner en Algérie.
Alors, dans quelles conditions, vous-même, avez-vous rejoint les MC?
J'étais dans une école d'assistante sociale.
Je pense que le cas d'Aline Mayout est parfaitement intéressant parce que dans ces équipes d'MC, il faut bien souligner qu'il y avait un peu toutes les origines,
ah oui.
les métropolitaines, de toute classe sociale. J'ai eu l'occasion
exactement,
de vérifier, de toute classe sociale.
Exactement.
Des pieds noirs, bien
ouais,
entendu,
ouais.
Et des musulmanes, ou alors, cas encore pas particulier, des demi-algériennes ou demi... Voilà. Donc, vous arrivez comment aux MC? Comment en arrivez-vous là?
Eh bien, je suis arrivée en Algérie à l'âge de 17 ans et demi. J'étais un petit peu désespérée. J'étais dans ma famille, bon, qui vivait tout à fait à l'européenne, d'ailleurs. Mais bon, j'étais un peu... Il y avait la guerre, beaucoup de choses qui me choquaient. Je suis rentrée dans une école d'assistante sociale grâce à mes cousins qui m'ont pistonnée. J'ai connu Madame Massu qui cherchait des jeunes femmes bénévoles pour l'aider à ramasser les petits yaoulets le soir ou les week-ends. J'avais une belle-sœur qui était déjà dans les MC. Donc, tout ça a fait que quand l'armée a demandé des volontaires, je me suis proposée et je ne l'ai jamais regrettée. J'ai été recrutée, je suis allée voir la SAS de Bellecour qui m'a recrutée immédiatement.
La SAS de Bellecour, donc, qui était la banlieue d'Alger, hein, et qui était une SAU ou une SAS? C'était une SAU.
C'était une SAS.
SAS. Pourquoi? Parce que SAU, on l'a dit, c'était dans zone urbaine. Hein. Alors, quelle était l'attitude des populations à votre égard? Parce que vous arriviez là dans un milieu souvent très rustique, très...
Oui,
très, très...
qui n'avait jamais vu d'Européennes d'ailleurs, dans ma zone. Au sud de Bogari, les gens n'avaient jamais vu d'Européennes. Alors, au début, elles le regardaient avec méfiance, mais avec les soins que l'on donnait avec les médecins, elles étaient confiantes. Et puis petit à petit, bon, de semaine en semaine, elle nous connaissait mieux et elle nous attendait avec impatience. Et alors on insistait beaucoup sur l'hygiène. Et dès que les enfants voyaient, on arrivait souvent des fois en camion, quelquefois en ambulance, dès qu'ils voyaient qu'on arrivait, ils venaient nous voir, ils étaient tout mouillés, la figure toute mouillée, les mains mouillées, ils nous embrassaient, étaient contents de nous faire voir qu'ils suivaient bien nos conseils. Et les femmes venaient derrière.
Alors, en ce qui concerne votre prise de connaissance de ce milieu des petits villages perdus de Kabylie et d'ailleurs, pour vous, métropolitaine, et pour vous, je dirais, qui est arrivé de Paris, quel a été votre sentiment?
Moi, c'était un peu spécial parce que j'étais déjà au Maroc, papa était dans les Goumes. Donc, dans le bled, on connaissait la population.
Déjà.
Donc, moi, si vous voulez, je n'ai pas été... Au contraire, j'avais demandé... j'ai attendu plus d'un an pour avoir ma mutation, parce que j'avais rencontré au Sahara le colonel Fogas, qui avait fait la guerre avec papa dans le même Tabor, puisque lui commandait le Goum de Boulman, et papa, il mousère de Marmoucha. Donc, il m'avait demandé... D'ailleurs, il a été un des créateurs des MC, avec le colonel Lacheroy. Voilà.
Et vous, alors, parce que venant de Paris...
Petit peu différent, parce que moi, j'étais à Alger, le grand Alger. Donc, le matin, nous nous présentions c'était boulevard La Ferrière. Nous dépendions aussi bien de la caserne d'Orléans que de la caserne Pélissier, Fort-l'Empereur, nous rendions compte. Donc, le matin, nous partions dans la Casbah, dans les bidonvilles, aux alentours d'Alger, Birmandres, le Clos Salambier... Ravin de la femme sauvage, nous visitions les femmes, nous leur demandions si elles avaient besoin de quelque chose. On voyait si les enfants étaient en bonne santé. Souvent, nous revenions avec un médecin parce qu'il y avait des problèmes. On a vu des enfants dans la casbah à moitié mangés par les rats. On a vu des cas aussi d'alcoolisme, etc. Et l'après-midi, nous ouvrions des cercles féminins. Alors, Une fois par semaine, on changeait tous les jours de cercle. Un jour, c'était dans le quartier d'El Bihar, un jour dans le quartier de Birmandres, un jour à Belcourt, un jour à Alger. Et c'est là qu'on rejoignait le mouvement Solidarité Féminine. Donc, les femmes venaient nous rejoindre. On faisait, on leur apprenait à coudre, à broder, à faire de la cuisine, les règles d'hygiène. Par contre, à Alger, on faisait aussi de l'alphabétisation, parce qu'il y avait des femmes qui ne savaient pas lire, qui ne savaient pas écrire, qui parlaient très mal français. Et au bout de trois années, elle savait parfaitement lire, écrire, parler français, même discuter avec nous. Voilà. Et ça, c'était très important. Et ces cercles féminins, elles nous amenaient des amis, elles nous amenaient leurs enfants aussi. On riait, on chantait, elles nous apprenaient des chansons en arabe.
Donc, même dans ces quartiers périphériques d'Alger, où quand même, surtout à partir de 1960, ils ont été extrêmement travaillés par la propagande FLN, il n'y avait pour autant, si je comprends bien, pas d'hostilité à votre égard.
Ah, pas du tout. Jamais nous n'avons trouvé d'hostilité. Écoutez, dans la Casbah ou dans les bidonvilles, mais où les femmes vivaient dans la boue, c'était des tôles, des maisons en tôle, en terre battue. Elles trouvaient le moyen de nous offrir un café. Elles nous attendaient. Elles nous offraient un café avec une eau. Mais on le buvait quand même parce que ça aurait été un outrage pour elles si on refusait. Si on ne venait pas, s'il se passait une journée ou une semaine sans qu'on voie ces femmes, elles se demandaient pourquoi nous n'étions pas venues, pourquoi elles venaient en catastrophe dans les cercles féminins pour essayer de nous retrouver. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes fâchées? Ah non, nous étions reçues partout à bras ouverts, même par les maris qui étaient contents de voir leurs femmes qui avaient trouvé... il y avait la propreté, les soins d'hygiène, etc. Ce n'était pas de leur faute, elles ne savaient pas. On ne leur avait pas appris, donc on essayait de combler tout ça. Et c'était devenu des amis.
Vous écoutez le libre journal de Roger Saboureau, qui traite aujourd'hui de l'action sociale de l'armée pendant la guerre d'Algérie. Roger Saboureau a invité pour ce faire le général Maurice Fèvre, historien, Madame Brett, présidente des anciennes MC, et Madame Mayout Aline, ancienne MC elle-même.
Très bien. Mon général, un mot là-dessus.
Oui, je crois qu'il faudrait... Vous avez évoqué le mouvement de solidarité féminine. C'est un mouvement qui a été créé par Madame Massu. Quand elle a vu la misère qui régnait dans la Casbah, et le général Massu lui-même, d'ailleurs, avait commencé à créer des mouvements de formation de la jeunesse. Et Madame Massu, donc, a créé ce mouvement de solidarité féminine qui a été étendu très rapidement à toute l'Algérie et qui a rassemblé jusqu'à 60 000 femmes de toutes conditions. Et à cette action de Madame Massu, je pense qu'il faut joindre également l'action législative en faveur de la condition féminine. Il y a eu une ordonnance qui a été votée le 4 février 1959, qui modifiait la condition féminine en Algérie et qui supprimait en particulier le droit de répudiation des maris, vous savez. Cette loi est restée en vigueur un certain nombre d'années, même après la fin de la guerre d'Algérie. Mais malheureusement, cette loi a été supprimée en 1984 quand les Algériens ont créé la charte de la famille, le code de la famille, que certains appellent la charte de l'infamie, parce que on revenait aux errements précédents, c'est-à-dire le droit de répudiation du mari, etc. Et la condition de la femme qui venait après celle des hommes. Hein.
Oui, nous parlions beaucoup avec les femmes, et moi, quand j'allais voir les équipes, parce que je suis partie du lundi, je rentrais le vendredi soir, le samedi, et je parlais beaucoup aux femmes et aux hommes. Et je suis intervenue, et nos filles intervenaient, pour les répudiations, et surtout pour les mariages de petites filles de 12 ans avec des vieux.
Ah oui. Hein,
nous avons empêché des mariages, même... je ne sais pas le dire. Enfin, moi, je parlais beaucoup en disant aux femmes, votre fille, vous la mariez avec un homme qui est plus vieux que votre mari. Alors, c'est pas possible. Et alors, oui, mais on a touché la dot, en fait, c'était des trucs comme ça. Et bon, enfin, on arrivait quand même à faire empêcher ces mariages, qui étaient vraiment difficiles.
L'action des SAS sur ce plan-là a été importante aussi, parce que comme ils avaient une responsabilité politique communale, ils faisaient des mariages à la mairie. Et donc, ils exigeaient qu'il y ait le consentement de la femme pour se marier. Il y a donc, ils s'opposaient au mariage forcé des jeunes filles.
Vous avez parlé à l'instant de Madame Massu. Dans l'imagerie populaire, le général Massu, c'est le gros méchant, c'est le parachutiste abominable, c'est le tortionnaire en chef. Et on sait quand même qu'il a adopté, d'abord que Madame Massu a accompli une œuvre extraordinaire, enfin, formidable, Aline vous en parlerait après. Et d'autre part, rappelons-nous qu'il avait adopté deux jeunes, un garçon et une fille, deux jeunes musulmans, simplement pour couper la tête à certaines idées reçues. Aline,
pendant la bataille d'Alger, Massu a créé des centres de formation de la jeunesse, dans Alger même et dans
En France. Voilà.
Et à l'action de Madame Massu, il faut joindre également l'action du médecin, le docteur Sangline, qui allait dans les caravansérails ou les maisons de douche pour récupérer des jeunes enfants qui étaient abandonnés et qu'il recueillait et qui ensuite étaient formés dans les écoles françaises.
Oui, je voudrais dire que
vous avez vu ça.
Oui, et à l'origine du mouvement de solidarité féminine, ce n'est pas Madame Massu, c'est Madame Salan. Et Madame Massu a été désignée pour le Grand Alger, une autre personne pour le Constantinois et une autre personne pour l'Oranais. Voilà. Et nous partions le soir, c'était surtout le soir, pour ramasser les petits gosses qui traînaient, qui étaient malades, qui étaient à la merci de tous les dangers, qui ciraient les chaussures, qui proposaient, qui n'avaient pas où loger, qui étaient complètement abandonnés. Madame Massu a créé des centres pour les aider. Ils étaient éduqués, soignés. Voilà. Ça, c'est très important de le dire, je trouve.
Je crois qu'il faut éviter la confusion entre peut-être un retard pris en Algérie par l'administration et ce que l'armée elle-même a eu l'occasion de faire. Et je dois dire que là, on n'a pas à rougir, contrairement à ce que d'aucuns pensent.
Hein? Mais Madame Massu avait aussi un centre au sud de Pau. Madame Okamikaf, c'est partie du conseil d'administration.
Oui, elle avait ouvert des centres.
C'est-à-dire que, à la fin de la guerre, Madame Massu a créé dans la région de Pau trois centres de jeunesse. Hein, il y en avait un à Pau même, le centre de Gélos, il y en avait un à Montaut et l'autre à Moumour, qui étaient des centres où autrefois le docteur Sangline envoyait des enfants en colonie de vacances. Et donc ils ont été réorganisés par Madame Massu et donc ils ont eu un travail de formation de jeunes de toutes conditions. Et il faut noter l'importance de ce travail qui a été fait parce que, en particulier, Madame Kerchouche Dalila présente ces centres comme des centres de correction. C'est absolument pas cela. Ça a été démenti par tous les éducateurs qui étaient dans ces centres et qui sont furieux de ce jugement de Madame Kerchouche.
Cette Madame Kerchouche, pour revenir un peu en arrière sur la désinformation de minutes, par qui la manipule? Parce que je pense qu'elle n'a pas trouvé tout ça toute seule, puisqu'elle n'était pas née à la fin de la guerre. Donc, voilà.
Madame Kerchouche, elle a été au camp de Billage, je crois, à l'origine, mais elle avait. Je crois qu'elle est née en France, d'ailleurs. Donc,
elle est née en France.
Elle a très mal connu le problème des camps d'accueil, mais Elle la déforme complètement. Elle raconte que c'était des maisons de correction, que les médecins, que les chefs de centre envoyaient les récalcitrants à l'hôpital psychiatrique, etc. Il semble qu'elle a changé un peu d'opinion parce que dans son premier livre, Madame Kerchouche était très fière de son père parce que son livre s'appelait Mon père, ce harki. Et elle était fière de son père parce que son père livrait des munitions au FLN. Alors, Mais quelques années plus tard, elle a changé d'optique et maintenant elle est fière de son père parce qu'il s'est battu pour la France.
Oui, parce qu'elle est retournée en Algérie alors qu'aucun enfant d'Arcueil a pu y aller. Donc c'est vrai que son père a soutenu le FLN. Elle n'a pas eu d'ennui, elle.
Mais dans le cadre de ces conférences ou manifestations diverses pour assurer la promotion de tel ou tel de ce genre de livre ou d'association, vous nous disiez tout à l'heure que à la mairie de Paris, rappelez-nous ça, la responsable des anciens combattants,
c'est cela.
Alors c'est une personne qui est
du Parti communiste.
Et voilà.
Elle est chargée.
Elle ferait bien de parler de ce qui se passait.
Elle est chargée de la mémoire historique. Hein.
Chargée de la mémoire.
Ouais, elle est chargée de la mémoire. Je ne sais pas si elle s'intéresse à la mémoire de l'Union soviétique, mais ce serait intéressant de lui demander.
Il y a eu quand même plus de 100 millions de morts.
Et nous avons eu dans les cercles féminins à Alger, du moins, des personnes qui avaient caché des bombes sous leur voile, hein, qui venaient, qui nous l'ont avoué après.
Ah oui.
Et il y en a eu au moins une que j'ai bien connue parce que j'alphabétisais, quoi. Elle a appris à lire et à écrire avec moi, donc elle m'a tout avoué. Et à la fin, au bout de 2 ans, elle ne portait plus le voile. C'était pas son mari qui l'empêchait, c'était une tradition, mais elle nous a avoué qu'elle transportait des bombes. Et ça, il faut le faire quand même.
Hein. Ben, une fois, moi, je me trouvais avec des filles dans un douar. Et je rentre dans une mechta, il y avait un lit en fer et tout. La dame était assise sur... Et moi, j'étais en face. Et puis, on parlait. Bon, puis à un moment donné, j'ai vu sous le lit un corps avec des pieds un peu grands pour des femmes. Du moment que la personne se cachait, donc j'ai pensé que ça devait être un fell. Donc, j'ai dit, je suis restée toute l'après-midi là. Les filles sont allées continuer. Mais moi, j'ai dit, il va y avoir des cotons longs. Et puis... À la fin, bon, donc je suis partie, je l'embrassais en sortant, on avait quand même une escorte. Le gars n'était pas très loin, je lui ai dit, en dessous le lit, il y avait un homme. Donc pour qu'il se cache, c'est qu'il avait quand même des choses à se reprocher. Et une fois dans un douar, il y a des femmes musulmanes me disaient, tu comprends, la nuit, les fellous viennent. On est obligés, ils nous violent. Et on est obligé de donner toutes nos provisions, notre argent. L'armée française ne le fait pas. C'est-à-dire, bon, moi, je l'ai heureusement. Et alors, elle me racontait, il y en a une qui avait une grande jarre. Un homme pouvait se cacher. Donc, des fois, il y avait des fellous qui se cachaient là quand l'armée venait. Mais elles étaient obligées, elles le disaient, elles étaient obligées de les recevoir parce que sinon, elles étaient... C'est pour ça qu'on avait fait des regroupements. Parce que les mechtas étant éloignées les unes des autres, elles étaient très souvent, les fellous venaient et mangeaient, prenaient tout, quoi. Donc, on avait fait des regroupements, et moi, je faisais visiter les regroupements aux femmes, et puis je leur disais, voyez, dans la cuisine, vous avez l'évier, le robinet, maintenant, vous n'aurez plus de corvée d'eau, vous tournerez le robinet, et vous aurez l'eau. Ah, non. Comment, non, mais si, vous avez, je pensais qu'elles comprenaient pas que l'eau pouvait venir, là.
Oui.
Et puis, il y en a une qui me dit, tu sais, la corvée d'eau, c'est notre seule sortie, alors. Et c'était ça.
Alors d'ailleurs, à propos des filles qui posaient des bombes, cette émission dont vous avez parlé tout à l'heure, les porteuses de feu, oui. Ça fait beaucoup de bruit dans le Landerneau des anciens harkis rapatriés. Il y a eu d'ailleurs au tribunal de grande instance de Paris, il y a eu une session, je crois, au mois de juillet, qui va traiter de ce problème de la 3, je crois.
Il y a une plainte qui a été déposée
par Nicole Guiraud, je crois. Alors l'armée, quelle était vos relations avec l'armée? Quel était le rôle de l'armée, en fait, puisqu'on parle du rôle social de l'armée, quel était le rôle social, quel était le rôle de l'armée dans la logistique et dans la
protection? Les MC étaient affectés à un régiment ou un quartier, un sous-quartier, mais c'était les militaires, les 5e bureau. Après le putsch, on est passé 3e bureau. En fait, ça n'a pas changé notre travail. Et donc, mais les civils étaient payés par la direction de la santé. Hein, elle dépendait donc de l'officier du 5e bureau, hein, et elles allaient là où il y avait besoin d'aller, quoi, hein, les populations musulmanes.
Est-ce que c'était dangereux? Est-ce que les
Ah ben, on a eu quand même 10 filles qui ont été tuées, dont au barrage du Grips, il y a eu 4 filles qui ont été tuées. J'ai retrouvé la rescapée il n'y a pas très longtemps, je l'avais vue déjà en 73 parce qu'elle était venue au ministère. Et avec elle, elle m'a dit, il y avait un aumônier. Et cet aumônier a essayé d'empêcher les fellous de tuer les filles. Il a été égorgé, lui, également.
Pour les jeunes générations qui ignoreraient ce que veut dire Fellous, ça veut dire les membres du FLN.
C'est-à-dire oui, les FLN. Ah oui, d'accord, FLN, oui, c'est vrai. Oui.
Les gens ne savent pas trop. Hein.
Et d'ailleurs, là, au congrès de l'UNC, nous avons fait la connaissance du président des aumôniers anciens combattants, et je lui ai parlé donc de cet aumônier, parce qu'on est en train de faire les démarches pour savoir si son nom a été inscrit au Quai Branly. Ah oui.
Est-ce que vous avez eu à connaître, dans vos séjours dans les Douars, dans vos passages dans les Douars, des conflits qui agitaient eux-mêmes, le FLN par exemple et le MNA? Est-ce que ça vous a été
sensible? Dans ma zone, moi, c'était MNA. Par exemple, Boussada Djelfa, c'était MNA. Et en septembre 61, j'étais avec l'équipe de Boussada, le colonel nous a envoyé, on était partis pour plus d'une semaine. On faisait, c'était les nomades, et on a reçu un message d'aller au point. Donc les militaires nous ont emmenés à ce point-là. Quand on est arrivé, les raïmas étaient tout en parterre, il y en avait qui avaient été brûlés, tout était en l'air. Il restait que des vieux, des vieilles et des jeunes enfants. Et il y avait une femme, chaque fois que j'y pense, je la vois devant moi, elle avait un port de reine. Et elle parlait assez bien le français. Elle m'a dit, tu sais, on ne sait pas s'il y a des femmes ou des hommes qui ont pu s'échapper, parce qu'on avait enlevé le poste militaire dans la journée. Et la nuit même, le FLN est venu pour enlever les hommes, les femmes. Bon, qu'est-ce qu'ils sont devenus? On n'a jamais pu savoir s'ils ont été tués, ce qu'ils en ont fait. Et alors, nous, on a donné tout ce qu'on avait, on n'avait pas grand-chose. Et elle me disait, tu sais, quand ils sont partis, alors elle me donnait des grands coups dans le dos. Va chercher De Gaulle, va chercher De Gaulle. Et quand je suis remonté à Médéa, j'ai rendu compte au général qui avait remplacé le général Arfouillou après le putsch, mais qui m'a beaucoup aidé. J'ai eu beaucoup de chance d'ailleurs, mes trois généraux m'ont beaucoup aidé. Et alors, là, je lui raconte, il me dit, partout où vous passerez, vous direz que je n'en aurai pas de poste militaire. Mais j'ai dit, général, si vous recevez l'ordre de Paris, qu'est-ce que vous allez faire? Parce qu'on m'avait montré, les aviateurs de l'état-major m'avaient montré des photos. Entre Blida et Médéa, on voyait des hommes... Des Français, quoi, des pieds noirs, ou des Européens, avec des gros boulets aux pieds et aux mains. Donc le général avait voulu faire une opération dans la Chifa, et le général de Gaulle n'a pas voulu, bien entendu. Bon. Et alors, il y a 3 ou 4 ans, à Rivesaltes, j'y étais pour l'inauguration du monument aux morts des Harkis. Et la veille, au restaurant, j'étais à côté d'un ancien militaire, puis on discute, et à un moment donné... Je lui raconte mon histoire de la Chifa. Il me dit, mais oui, mais moi j'étais à la latte de Berouaghia, donc c'est à 25 km de Médéa. Il dit, on a pris des photos de toute l'Algérie et on a pris des photos où on voyait des camps. Le gouvernement français n'a rien fait.
Oui, ça c'est cette période épouvantable, on va y venir. Celle qui a succédé à ce qu'on a appelé le cessez-le-feu.
Le fameux 19 mars.
On va y venir. En ce qui concerne votre séjour, est-ce que vous avez des moments dans cette vie de MC particulièrement forts dont vous gardez un souvenir, un vrai souvenir?
Ah oui, parce que après le septembre 61, le général Hublot, qui était chef d'état-major de l'UMI, a fait un stage à Rouiba. On faisait des stages à Rouiba pendant un mois où on formait, où on reposait les filles, où on leur donnait de nouvelles instructions. Bon, alors là, il est venu nous voir. Il nous a dit qu'on faisait du bon travail, mais qu'il faudrait continuer notre travail pour l'Algérie algérienne. Alors ça nous est resté à travers la gorge, je ne vous dis pas. Et qu'à la fin du... Alors il nous a dit une parabole, quand les Français sont arrivés en 1830, il n'y avait que des cailloux et des chartons. Ils ont planté des rosiers, les roses étaient magnifiques. Les pucerons sont arrivés, ils ont tout mangé. Mais ça ne fait rien, Dieu reçoit tout le monde dans sa maison. Bon. Après, il est parti, nous, on était partis chacune dans notre coin, puis à la fin, un peu avant la fin du stage, Madame Richard, qui était notre directrice, me demande de préparer la revue de stage. J'ai dit non, je refuse, je fais pas la revue de stage. Bon, puis tous les jours, elle nous demandait de faire la revue de stage. Bon, on l'a fait pour elle, donc on a fait la parabole. Alors la parabole, j'avais pris 4-5 filles, que j'avais déguisées en rose, puis sur un air de musique, je leur ai fait faire des mouvements. Puis Carmen de la Rochefoucauld, qui était plus carré que moi, faisait Dieu, et moi je faisais le puceron. Et sur l'air de... Alors bon, donc elle fait un peu les mouvements, alors il y avait tous les officiers, la salle était pleine. Et puis sur l'air du bourdon, je rentre par le fond de la salle avec des grandes cisailles que le colon m'avait passées. Hein, et puis j'allais à leur figure, et puis je faisais des grands prix, je poussais des cris, tout ça. Et après, Madame Richard m'a dit, j'ai cru que vous alliez couper le nez du général tellement que vous étiez pris, puis vous aviez un regard assassin. Bon, et donc, moi, quand je suis remonté à Médéa, j'ai raconté à mon général Rouillet exactement ce qu'on m'avait demandé. Et je lui ai dit, moi, pour sauver mes filles, pour pas qu'elles aient d'ennuis après notre départ, je vais les recaser tout de suite dans le civil. Je savais que les hôpitaux du département avaient besoin de personnel. On venait de finir l'hôpital de Médéa, 1,5 milliard, qui pouvait pas ouvrir parce que personne voulait venir travailler. Donc, il était d'accord. Je suis allé voir le directeur de la santé. Je lui ai expliqué. Lui aussi, ça lui a fait un choc quand même. Et il me dit, oui, mais moi, je sais que vos filles travaillent bien, donc je veux bien les prendre dans les hôpitaux. Mais j'ai dit, il faut quand même les former à l'hôpital parce que bon, elles sont pas habituées à travailler en hôpital. Bon, mais vous voyez ça avec le directeur. Donc, avec le directeur, j'ai organisé un stage du 2 janvier au 15 février. Elles ont passé leurs examens. Et puis, je leur ai dit, bon, ben, maintenant, vous travaillez plus avec l'armée. Je suis plus votre patronne. Si vous avez des problèmes personnels, je reste toujours à votre disposition tant que je serai là. Hein. Mais sinon, maintenant, vous êtes civile. Et le général me dit, qu'est-ce que je pourrais faire pour récompenser vos filles? Je lui dis, vous savez, maintenant, on n'a plus grand-chose. On voulait aller à Gardaïa, mais c'est trop tard. Ah ben, il me dit, je vous paye Gardaïa. Il nous a payé 3 jours à Gardaïa. Bon. Et puis, donc, après, quand je les voyais, je les apercevais dans mes DA. Je voulais plus qu'on les voit avec moi. Je rentrais dans le premier magasin. Et puis, après les accords d'Évian, donc les accords d'Évian 19 mars, qu'il y en a qui fêtent comme si c'était une victoire pour le FLN, ce qui était ça d'ailleurs, mais pas une victoire française. On a laissé tomber les gens. Bon, donc, moi, j'ai une musulmane qui vient me voir fin mars. Elle me dit, alors, elle avait le visage complètement défait. Elle me dit, voilà, la Wilaya 4 veut que j'aille les rejoindre. Je serai violée et tuée. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi? J'ai dit, je ne sais pas, mais je fais quelque chose. Vous pouvez compter sur moi. Elle s'en va. Puis 20 minutes après ou une demi-heure, il y en a une autre qui vient, qui me fait la même chose et qui me rajoute, j'ai peur qu'on demande de tuer mes camarades. Parce que vous savez que c'était, on demandait à l'employé de maison de tuer sa patronne, à l'ouvrier de tuer son patron, enfin. Et puis je vais rendre compte à mon commandant et puis au général. Le général me dit, qu'est-ce que vous voulez faire? J'ai dit, je les protège. D'accord. Il me dit, je organise tout, je vous donne tous les moyens de la zone. Et à Médéa, à l'hôpital de Médéa, j'avais 14 filles dont les 2/3 étaient musulmanes. Puis je dis au commandant, qu'est-ce que je vais leur raconter pour qu'elles me suivent? Bon, vous trouverez. Bon, enfin, le matin, 6h moins le quart, j'étais à l'hôpital. J'étais allé déjà la veille le dire au médecin, chef. Et il m'avait dit, ne vous occupez pas du service. Les filles de nuit, je les ferai sortir 1 heure plus tôt. Et celles de jour, rentrer 1 heure plus tard pour que vous ayez tout le monde en même temps. Bon, alors, 6h moins le quart, j'arrive à l'hôpital. Il y en a une qui sort d'une salle. Quand elle me voit, elle vient, elle m'embrasse, elle tombe, elle pleure elle grelottait, tout un truc. Alors, elle me dit, qu'est-ce que vous venez faire? Passer une visite. J'ai pas eu fini, que j'ai réalisé que je disais une bêtise, mais elle était tellement troublée qu'elle s'en est pas rendue compte. Je lui ai dit, vous me faites un bon café, je vais venir prendre un bon café. Vous savez, tous les jours, on parle de vous. J'ai dit, allez me faire un café, j'arrive. Et puis, je vais dire au médecin, à 7h, j'amène tout le monde. Bon, on me dit, bonne chance. Et je monte dans les 2 appartements des filles, je commence dans l'appartement, j'étais 7, je savais pas que dire, puis je dis, qu'est-ce que vous avez l'air fatigué? Depuis que vous nous avez mis là, on n'a pas eu une demi-journée de repos. Ben, je dis, ça se voit. Et comme vous avez bien travaillé avec nous, le général vous paie des vacances. Ah bon? Alors, aucune réponse. Il y en a une qui dit, on va où? Alors, je dis, ça, c'est la surprise. L'autre, on part quand? Dans 1 heure, faites vos valises. Ils sont partis dans leur chambre. J'ai vu même les filles respirer. J'ai fait la même chose à côté. Elles m'ont pas posé de questions. À 7h, les véhicules sont arrivés. Je les ai fait descendre. L'armée a coupé la route à sortie de Médéa. Et on a eu 1 et même 2 hélicoptères pour descendre la Chifa pour aller jusqu'à Alger. Je les ai amenés à la maison MC. Et avec Madame Okamika, la directrice, nous sommes allés à l'EMI. Alors, j'ai raconté mon histoire. Et puis, le colonel me répond, on peut rien faire. Alors là, j'ai piqué un peu une colère en disant, comment on a engagé ces filles? Maintenant, on va les laisser tuer. C'est scandaleux, c'est ça, la France. Alors, dans l'eau, il y en a un qui dit, il n'y a que Christian Fouché qui pourrait faire quelque chose, mais Voros ne fera pas. Mais il m'avait mis sur la piste parce que Madame Brulard, qui avait été responsable à Mostaganem, qui dans le temps avait travaillé avec lui, il lui avait demandé de venir au Rocher Noir. Et quand elle a été au Rocher Noir, elle m'a téléphoné pour me donner son numéro de téléphone. On avait des relations amicales. Bon, ça m'a bien aidé. Donc, je l'appelle. Et puis, je lui dis en 2 mots ce qui en était. Bon, elle me dit, attendez. Puis, elle me dit, Monsieur Fouché vous reçoit dans 1 heure. Je ne fais du pas la tête des colonels.
Je signale que Christian Fouché, je vous interromps une seconde, Georgette. Christian Fouché était, à l'époque, le représentant de la France.
Au commissaire
de France en Algérie, c'est-à-dire le numéro 1.
Voilà, exactement. Alors, nous arrivons chez au Rocher Noir. On est reçu par M. Fouché. Je lui raconte mon histoire. Il me dit, mais il y a les accords d'Évian, mademoiselle. En plus, les accords d'Évian, il y a l'armée française qui les respecte. Voilà ce qui se passe et je raconte toutes les atrocités qu'il y avait dans notre département. Alors, il réfléchit, j'appelle Ferhat Abbas. Il appelle Ferhat Abbas, il lui dit deux mots, puis il me fait signe de parler.
Donc, je dis aussi qui est Ferhat Abbas, pour les auditeurs des générations plus jeunes qui ignoreraient. Ferhat Abbas était un des grands leaders, mais on ne dit pas leader ici, on dit
un des grands chefs
algériens. Ouais. Il a d'ailleurs été le patron du GPRA, le président du GPRA. C'était quelqu'un qui avait dit, avant la rébellion, qui avait dit « je cherche
la nation algérienne, je ne la trouve pas ».
Exactement. Bon, alors je parle à Ferhat Abbas, il me dit « elles sont où ?» À la brique, je lui ai fait sur un ton assez sec, bien entendu. Bon, alors il essaye encore de poser quelques questions. Ben, il me dit « donnez-moi 15 jours pour que je rencontre la Vilaya 4 ». Donc j'y suis tout de suite, c'était perdu, parce que moi je savais où était la Vilaya 4, mais lui il savait mieux que moi quand même.
Hein. Bon, en principe. Bon.
Donc j'ai jamais eu de réponse, ni de l'un de l'autre. Le lendemain, j'ai vu mes filles une par une. Alors j'avais des musulmanes, des pieds noirs et deux ou trois métropolitaines. Bon, aux musulmanes et même aux pieds noirs, j'ai dit, si vous voulez rentrer en France, c'est pas de problème. Moi, je vous envoie dans ma famille. Quand je rentrerai, je m'occuperai de vous. Maintenant, surtout aux musulmanes, j'ai dit, on quitte pas sa famille comme ça sur un coup de tête, son pays. Hein, vous avez 15 jours pour réfléchir. Si vous vous sentez vraiment en danger, je vous dis, il n'y a pas de problème. Vous allez chez moi, puis il n'y a pas de problème. Bon, et puis je suis remontée à Médéal. Je ne voulais pas avoir une influence sur elle. Je venais, je passais 2 heures et je repartais. Et puis le 15e jour, donc il y en a qui m'ont demandé de rentrer en France, d'autres qui sont restés, mais elles ne sont pas remontées à Médéa. Et j'ai retrouvé deux de mes filles qui avaient travaillé à l'hôpital de Mustapha après notre départ. Et il y en a une alors, qui était ma meilleure fille, même je dirais même mieux que toutes les métropolitaines et pieds noirs. C'était une fille exceptionnelle. Et elle en a perdu la... Elle est venue, elle est complètement... Maintenant, elle est complètement musulmane, alors que ses enfants ne sont pas... Enfin, pratiquent l'islam, mais pas... Elle est voilée et tout le bazar. Et sa sœur était assistante sociale à l'hôpital Mustapha. Et un jour, il y en a un qui lui dit de...
Oui, allez-y, à Georgette, allez-y.
Il lui dit d'aller amener un enfant à la salle d'opération. Alors elle lui dit, mais c'est pas moi, c'est l'infirmière. Tu vois, regarde tous les gens qui m'attendent. Et elle a insisté, elle m'a dit, je suis partie. Heureusement qu'elle avait retardé, parce que quand elle est arrivée à 2 ou 3 mètres de la salle d'opération, la porte a explosé, elle aurait été tuée avec l'enfant. Donc elle a quitté l'hôpital, elle a travaillé dans une entreprise où son mari travaillait. Et il y en a un qui travaillait avec elle, qui était un Algérien, qui lui dit, ne prends pas l'autobus. Elle me disait, aux arrêts d'autobus, il y avait des têtes de femmes et d'hommes de piquets dans tous les arrêts d'autobus à Alger. Et alors, un autre jour, je ne sais pas si c'est le même, qui lui a dit, ne prends pas toujours le même chemin. Jusqu'au jour où le patron de l'entreprise l'a appelé, lui a dit, vous avez 1 heure pour rentrer en France avec votre mari et vos enfants, ne retournez pas chez vous. Elle est arrivée comme ça.
Alors, c'est le problème, on y est là en plein dedans avec votre témoignage. Le problème de cette fin de guerre d'Algérie, qui a été évidemment tragique. Ouais. Alors, Aline, vous étiez à Alger, il y a eu ces manifestations de décembre 60, et là, je pense que vous avez compris que tout ça était en train de basculer.
Oui, déjà le 26 mars, j'étais boulevard Laferrière, donc le massacre s'est passé pratiquement devant nous. Ça, c'est horrible. Et ce qui m'a aussi beaucoup, beaucoup émue, c'est quand nous sommes partis avec M. Missoff et mon mari, que nous sommes passés devant tous les pieds noirs qui étaient en train de brader le long de l'aéroport, leurs meubles, leurs voitures, qui pleuraient, ça, je crois que tout ce que j'ai vu, les attentats, tout, c'est ce qui m'a le plus marqué, de voir ces gens qui abandonnaient tout, qui étaient désespérés. Excusez-moi, je ne peux pas en dire plus, parce que c'est quelque chose qui...
Alors, avant que cette période tragique, il y a eu les propos successifs du général de Gaulle.
Oui.
Comment vous et vos filles avez-vous vécu cette évolution, je dirais, de la politique algérienne du gouvernement ? Est-ce que vous en avez eu conscience, ou bien est-ce que c'est seulement à la fin que l'évidence s'est imposée, non, je dirais, ou alors au fur et à mesure?
Moi, je me suis rendu compte, bien avant le putsch, qu'on était en train de trahir les gens.
Parce que vous, c'était particulièrement net, vous engagiez des jeunes femmes,
des jeunes femmes, oui,
dans votre camp.
Et puis la population aussi avec nous.
Et la population, hein, avec.
Alors, après, on a laissé tous ces gens à la merci du FLN. Combien il y en a qui ont dû être tués? Parce que quand j'ai vu ce qui s'était passé au sud de Boussada, là, dans ce camp de nomades, je suppose tout ce qui s'est passé. Et j'ai des relations avec des MC qui sont encore en Algérie. Mais il faut voir, dès qu'on savait ce qu'elles avaient été, il fallait qu'elles partent. Elles ont eu une vie horrible. Alors ces filles qui ont tout donné pour nous, on les a laissées tomber.
En ce qui concerne...
Et ça, j'en veux...
En ce qui concerne Christian Fouché, je reviens sur votre rencontre avec Christian Fouché, qui donne comme argument, il y a les accords de Yang, donc tout est réglé. Je vais être un petit peu vif de propos, peut-être. Est-ce que vous pensez, en ce qui le concerne, que c'est un naïf mal informé, ou, j'allais dire un salaud, mais...
Moi, je pense que c'est un salaud. Je vais vous dire pourquoi. Parce que moi, je me trouvais à Alger quand il y a eu le 26 mars. Et avec la secrétaire des MC, on a voulu aller avec les pieds noirs. Et quand nous avons vu qu'on nous poussait dans la même rue, on est revenu à la maison MC. Bon, et là, les 4e tirailleurs, qui étaient un régiment dans ma zone, hein, le colonel Goubard, je l'ai eu, il était chef d'état-major, donc je sais très bien, il était très Algérie française, mais après, il a viré complètement. Donc, c'est le 4e RTA qui a tiré dans la population. Bon. Paraît-il qu'il y avait des barbouzes sur les toits qui ont tiré sur eux, mais enfin, on n'amène pas des gens qui n'étaient jamais venus jusqu'à Médéa, hein, des tirailleurs qui connaissaient pas du tout, quoi. Donc, ça a été une provocation. Et j'en ai la preuve parce que j'ai un ami qui m'a envoyé une feuille, je lui en ai demandé parce que j'ai tellement distribué, qu'en 68, Christian Fouché était ministre de l'Éducation nationale et le général de Gaulle l'a limogé. Alors, il lui demande des explications. Il dit, c'est parce que vous n'avez pas fait tirer. Et alors il lui dit, quand il a fallu tirer sur la population algéroise, je l'ai fait. Donc, vous voyez, les ordres venaient bien de là.
En général, quel est votre avis sur...
Écoutez, il faudrait demander à Jean Monneret, qui vient d'écrire un livre sur le 26 mars. Hein, effectivement, je crois qu'il y a eu plusieurs erreurs au moment du 26 mars. C'est le fait de mettre des tirailleurs en ville d'Alger, alors que le général Ayré, qui était allé voir le colonel Goubard à Berouaghia, avait donné l'ordre au corps d'armée d'Alger de ne pas employer les tirailleurs en ville, hein, contre les manifestants. Et donc, c'est le corps d'armée n'a pas exécuté cet ordre. Pour quelle raison? Ça, on ne le sait pas. Est-ce qu'ils ont reçu des ordres par ailleurs? On ne peut pas le savoir.
Oui, c'est une histoire très compliquée, avec encore beaucoup d'incertitudes.
Oui, tout à fait. Moi, j'ai connu le lieutenant qui commandait une section. D'ailleurs, il est rentré dans mon dernier convoi que j'ai fait le 30 juin. Il est rentré, il ne pouvait plus voir les Arabes. Hein. Ouais. Et on l'entend dans la cassette qui crie « Halte au feu !»
Le lieutenant
Brossolette.
Brossolette, oui. Brossolette. Non, mais celui qui commandait sur place à rue d'Isly, c'était Houchen, c'était un kabyle. Hein,
oui, mais lui était là, puisqu'il nous l'a raconté.
Oui, d'accord.
Médéa l'a envoyé, vous savez qu'on partait sur le bateau, donc il est venu là.
Mais ceux qui sont tombés là, à la grande poste de rue d'Isly, ce n'étaient pas des musulmans. La majorité, c'était quand même des pieds noirs.
C'était des
contrairement à ce que certains disent. Voilà. Oui. Ça, je voudrais le. Nous l'avons vu, nous l'avons vécu.
Oui, oui, oui.
Bien sûr.
Ah oui, c'était des pieds noirs
qui
allaient déposer une gerbe au monument aux morts, parce qu'ils voulaient soutenir les gens qui étaient à Bab El Oued, qui étaient bloqués.
Hein. Absolument.
Alors on rentrait dans leur maison, on jetait toutes leurs provisions et tout, ça a été horrible.
Vous écoutez le libre journal de Roger Sabourot. Le sujet est l'action sociale de l'armée pendant la guerre d'Algérie. Nous avons invité le général Maurice Fèvre, historien, Madame Brett, qui a été présidente et qui est présidente des anciennes MC, et Madame Ayout, ancienne MC elle-même.
Mayout.
Mayout.
Voilà.
Sur l'histoire de la rue d'Isly, bon, y a, la thèse officielle, c'était, enfin, ça a été de dire que l'OAS avait tiré sur les tirailleurs. Or, ça n'a jamais été prouvé. Il y a eu probablement le tir d'un individu un peu taré, là, mais un seul tir. Et c'est à partir de ce moment-là que les tirailleurs se sont affolés. C'était un mouvement de panique. Hein. Ils ont cru qu'on leur tirait dessus, ils ont tiré de leur côté, et puis... Comme ils n'avaient jamais, ils n'étaient pas habitués, ils n'étaient pas formés pour faire du maintien de l'ordre en ville. Donc ils se sont crus encore dans le djebel avec des fêles en face. Quoi.
Oui, il faut évidemment savoir à qui le prime profite. Ça a bien fait l'affaire du gouvernement, puisque ça a créé la rupture entre, je dirais, l'armée et la population pied-noir, c'est évident. On a fait une émission avec Jean Monneret en particulier là-dessus, assez récemment, sur ce livre qui essaie d'éclairer l'affaire, qui c'est pas facile. C'est pas facile.
Non, mais il est certain que ça a eu une influence définitive. Et à partir de ce moment-là, les pieds noirs n'ont plus aucune confiance ni dans l'armée, ni dans l'OAS. Ouais. Et ils ont commencé à rapatrier.
Alors, en ce qui concerne justement ce départ, dont vous venez de parler, Aline, avec beaucoup d'émotion, et y compris alors les harkis qui ont été...
Les harkis, ça a été horrible, parce qu'on les a laissés. Il fallait qu'ils viennent, pour le corps d'armée d'Alger, il fallait qu'ils viennent, qu'ils se débrouillent pour arriver à Tefichoun. Hein? Alors, il y en a beaucoup qui sont morts en cours de route.
Vous êtes en train de dire qu'on...
On n'est pas allé les chercher, il fallait qu'ils se débrouillent pour venir à Tefichoun. Bon, à Tefichoun, ils étaient là. Moi, il y en a beaucoup d'hommes qui m'ont demandé, il faudrait que ma femme soit habillée comme toi. Donc, j'allais au village de Tefichoun, j'ai acheté des robes, des soutiens-gorge, des chaussures, je marquais leurs pieds, tout ça. Bon, j'ai fait le premier convoi, moi, d'Alger sur Marseille, où je vous ai dit, on avait les drapeaux FLN, les bras d'honneur
rappelez
et les uyous.
Rappelez ça, parce que c'est quand même tout à fait. Hein,
alors, voilà. On arrivait à Marseille, il y avait les drapeaux FLN, les bras d'honneur et les uyous. Bon. Et les femmes me disaient, les hommes, pardon, me disaient, venez et descendez du bateau avec leurs décorations. Donne-nous des armes, on les descend. Et moi, je me rappelais que mon père, qui était dans les goums, il racontait avec des officiers que quand ils ont eu délivré Marseille, tous les soirs, les Marseillaises venaient chercher leurs goumiers. Et là, pour venir chercher les harkis, on les a pas vus, les Marseillais, hein.
Oui, il faut dire qu'ils étaient un peu sous influence. Hein.
Non, mais enfin...
Monsieur Defer, maire de Marseille à l'époque, n'avait pas une grande sympathie pour cette cause. À propos de sympathie ou pas, pour les mesures gouvernementales pour accueillir... Venons au problème des harkis, puisque vous avez fait plusieurs convois avec eux. Les mesures gouvernementales pour accueillir les harkis ont été très tièdes, on vient de le dire.
Exactement.
Ouais. Alors là-dedans, il y a un certain nombre de grands commis, comme Mesmer ou Jox, qui ont été les grands exécutants de cette affaire. Or, est-ce qu'il s'agit de personnages, je dirais, sans envergure, incapables de s'opposer au chef?
Exactement.
Ou des cyniques pour lesquels la raison d'État est au-dessus de tout? Voilà le problème.
Leur carrière, quoi, c'est tout. Vous avez Mesmer, quelques années avant de mourir, il paraît-il qu'il avait des cauchemars, mais il aurait dû les avoir en 60, les cauchemars. Mais pas maintenant. Hein.
Comment ça se passait, ces convois de harkis?
C'était très difficile, parce que déjà, tout le long, on les amenait dans des camions bâchés, parce qu'on était... C'était encore la France qui était en Algérie. On était insultés par les filous, par la population qui était obligée d'être filous, quoi. Hein. On était insultés. Alors moi, j'ai fait deux premiers convois sur le LSD. Alors là, bravo les marins de la Marine nationale, parce que c'était vraiment... Parce que... Il n'y avait pas beaucoup de WC, ils étaient dans les cales parce que c'était des bateaux de débarquement de véhicules. Hein. Mais alors, ils nous ont aidés. On a eu un accouchement qui s'est très bien passé. Alors, tout de suite, moi, je suis sortie pour dire au mari qu'il avait un fils. Il me dit, ma femme, comment va-t-elle? C'est la première fois que dans des trucs comme ça d'accouchement, que le mari demandait toujours s'il avait un garçon. Et lui m'a dit, ma femme, comment va-t-elle? Alors, le commandant lui a fait faire un berceau en bois. On lui a donné une couverture. À chaque convoi, d'ailleurs, j'ai eu des accouchements. Et puis, le deuxième convoi, ça a été pareil. Troisième convoi, alors, c'était sur un cargo communiste du début à la fin. Quand on a eu placé tous les gens, en place, je suis allé demander au commandant où nous logions. Ah vous logez où vous voulez, on n'a pas de place, tout ça. Bon. Alors, il me dit, il y a l'infirmerie, bon, d'accord. Je montais à l'infirmerie, il y avait un lit, bon ben ça pouvait aller, on était 5, c'est pas grave. Mais ce qui s'est passé, c'est que le médecin qui aspirant qui était avec nous m'avait demandé à Tefesun si son médecin capitaine pouvait venir avec nous sur le bateau. Bon, j'ai dit oui parce que c'était très bien. Il pouvait pas venir en permission puisqu'il y avait plus de bateau ni d'avion. Donc il embarque avec nous, heureusement, parce que la dame qui a accouché dans la nuit ne pouvait pas, ça marchait très mal. Il a d'ailleurs sorti l'enfant au bout de je sais pas combien d'heures, qui avait le corps, le cordon enroulé autour du cou. L'enfant était mort, un beau petit garçon. Donc le matin de bonne heure, je vais voir le commandant pour lui demander un drap. Il m'a refusé le drap. Ben, j'ai dit, vous avez bien quand même des draps usés, des torchons, tout ça. Ah non, 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 j'ai absolument rien. Bon, ben d'accord. J'ai dit, je vais voir comment je peux faire. Et puis j'ai dit, je rendrai compte. Alors du coup, il m'a sorti un bout de chiffon. Bon, j'ai enveloppé l'enfant là-dedans, quoi. Et alors, si vous avez vu, de l'équipage à eux, c'était des communistes. Mais ils ont une haine terrible, hein, ces types-là. Ah,
bon. Simple question. Je croyais que les ordres militaires interdisaient tout rapatriement de harkis en France à l'époque et que ceux qui les ont ramenés l'ont fait à leurs risques et périls.
C'est moins clair que ça.
En partie. C'est-à-dire que il faut partir des négociations qui ont eu lieu en France, en Suisse même, au mois de novembre 1961. Où les Jox avait posé la question aux représentants du FLN sur le sort des harkis. Et le FLN avait promis qu'il n'y aurait pas de représailles. Et c'est à partir de cette promesse, qui était une promesse verbale, comme on dit, mais les promesses verbales, ça vole, et que Jox a conclu la politique de maintien des harkis en Algérie. Alors les directives qui ont été données par Mesmer en particulier, c'était de dire on ne rapatriera en France que les harkis qui s'estiment menacés. Et tous les autres, on les maintient en Algérie. Voilà en gros comment ça s'est passé. Et ensuite, comme il y a eu un certain nombre d'officiers, des officiers SAS, mais également des officiers, des commandants de régiment qui ont embarqué des harkis, il y a eu le 12 mai un message de M. Jock qui interdisait les initiatives de rapatriement. Mmh. Le même message, d'ailleurs, était diffusé le même jour par M. Mesmer. Et donc, comme le disait Georgette tout à l'heure, M. Mesmer s'en est repenti au moment où il a été élu à l'Académie française et il a exprimé ses regrets de n'avoir pas demandé au général de Gaulle de s'occuper des harkis. Il a dit « j'ai sauvé la Légion » parce qu'il y a eu une époque où de Gaulle voulait supprimer la Légion. Mesmer est intervenu, il a sauvé la Légion et il n'a pas sauvé les harkis.
Il y avait des choix douloureux, sûrement. Alors, les convois de harkis sont arrivés à Marseille.
Oui, puis alors, quand on arrivait au Larzac.
On va y venir. Je voudrais expliquer exactement comment se passent les choses, puisque les convois de harkis arrivent à Marseille.
Oui.
Ils arrivent avec leur famille, la plupart, ou bien ils
oui.
arrivent...
Non, en famille. Parce que même les femmes enceintes qui devaient accoucher, on leur disait, on leur promettait de les laisser à Alger, qu'on les amènerait après. Elles ne voulaient pas, elles ne faisaient rien. Et moi, cette dame dont le bébé est mort, elle s'accrochait à moi, elle me dit, tu sais, un enfant, j'en ferai un autre l'année prochaine, mais si je meurs, mon mari va se marier, j'ai 3 enfants, mes enfants seront malheureux. Chaque fois, on a eu des accouchements qui ont été quand même pénibles.
Mais... Alors, pour revenir quand même rapidement au problème de ces harkis rescapés, en fait, ils représentaient en pourcentage une infime minorité.
Ah, oui, tout à fait. Il y a beaucoup d'histoires qui sont racontées sur les effectifs de harkis rapatriés. Et on sait maintenant qu'on a rapatrié 21 600 harkis, hein, dont 18 000 chefs de famille et les autres célibataires. Le nombre de supplétifs, hein, 18 000, enfin 21 000, alors qu'il y en avait 150 000 en Algérie. Donc ça fait un peu 1 sur 8 environ qui ont été, ou 1 sur 12, pardon, qui ont été rapatriés. Et donc avec les familles, ça faisait quand même 66 000 personnes. Donc on a rapatrié 66 000 familles de harkis. Voilà.
Dans des conditions différentes, soit officiellement, soit par le fait
oui.
d'action.
Oui, alors bon, il y a des harkis qui ont été rapatriés officiellement. à partir, mais très tard, hein, c'est seulement...
Oui, c'est au mois de juin, même,
je crois. Que c'est le premier bateau a dû partir le 12 juin, quelque chose comme ça.
Oui, oui, oui,
ça,
c'était très tard, parce que moi, j'ai fait quatre convois à l'air.
C'était vraiment le dernier moment, et donc avant l'indépendance, avant le 1er juillet, on a rapatrié 10 000 personnes, ouais. Hein, c'est tout, 10 000 personnes.
Et pendant ce temps-là...
C'est à partir du mois de juillet qu'ont commencé les massacres massifs dans toute l'Algérie. Et donc, à ce moment-là, on a vu des harkis essayer de rejoindre les centres d'accueil, parce qu'on avait quand même créé quelques centres d'accueil en Algérie, mais il fallait savoir où ils étaient. On avait perdu tout contact avec les harkis dans le bled, hein, c'est évident, puisque les unités avaient été regroupées dans les villes, donc... Il n'y avait plus de...
D'ailleurs, au mois de septembre, là, enfin, déjà, en 61 déjà, après le putsch, les régiments partaient. Je sais que le commandant disait, je ne sais même plus quels étaient. On ne savait pas où ils étaient. Hein.
Bien, on va
alors,
parler
la
quand
population...
même. On n'a plus que 5 minutes. Je voudrais, mon général, qu'on parle un peu de ce séjour, enfin, où est vous et Georgette, bien sûr, dans les camps en France de ces harkis, qui est un objet de polémique incessant. Et donc dans lequel s'affrontent comme d'habitude toujours les mêmes qui considèrent qu'on les a reçus mal, ce qui est probable, mais pourquoi et à votre avis.
Bon, alors ce qu'il faut dire, c'est que le ministère des rapatriés de M. Boulin était complètement débordé par le rapatriement des pieds noirs. Hein, il est arrivé 600 000 pieds noirs en quelques jours. Et donc, à ce moment-là, il a dit à l'armée, démerdez-vous, occupez-vous des harkis. Bon. Il y avait eu une étude de fait par M. Michel Massenet, qui était un haut fonctionnaire du ministère de la Population, qui avait fait un plan de rapatriement. Et ce plan de rapatriement a été refusé par le gouvernement, Pompidou. Et donc, c'était encore Debré. Ce plan a été refusé, donc les rapatriements n'ont commencé à fonctionner qu'à partir de juin de 1962. Et à ce moment-là... l'armée a mis un certain temps avant de prendre en main les choses. Hein. Il faut bien le reconnaître. Pendant quelques mois, les camps de Bourg-Lastic et le camp de Saint-Maurice-Lardo, du Larzac, pardon, ont été remplis de harkis qu'on a mis sous la tente parce qu'on n'avait pas de locaux. Enfin, on aurait pu trouver des locaux, mais enfin, ça n'a pas été fait. Et donc, il a fallu quelques mois avant que l'accueil soit vraiment organisé. Il a été organisé, en fait, à partir de l'année 1963. Il faut dire que pendant quelques mois, au moins 6 mois, il y a eu un défaut d'organisation. L'armée n'a fait un effort que par la suite.
Alors, on va arriver à la fin de cette émission. J'aimerais vous demander, mesdames, toutes les deux, quels souvenirs vous gardez, quel est votre regard sur cette aventure, Aline ? Est-ce que c'est tant de risques et d'engagement au service de la promotion de la femme musulmane ? Est-ce que vous pensez que c'est une semence ou que c'est un gâchis ?
Moi, je suis très fière de ce que nous avons fait en Algérie.
Et vous, Georgette ?
Oui, mais ce qu'on avait fait, c'est très bien, mais comment sont-elles revenues maintenant ? Parce que moi, les filles qui sont restées, comme elles racontent, elles sont revenues en arrière. Hein. Les femmes sont esclaves de nouveau.
Donc vous avez le sentiment que tous les efforts déployés à une certaine époque se sont trouvés
zéro.
Oui, ça c'est vrai.
Ouais.
Même actuellement, dans une Algérie qui se dit laïque, hein, en fait...
Laïque.
Vous avez la montée de l'islamisme, attention. Hein. Ouais. C'est pas l'islam, les amis. Bon, elles sont obligées de se voiler, de ci, de ça. Non, elles peuvent plus faire ce qu'elles veulent, quoi.
Je rappelle, d'abord, je vous remercie beaucoup pour cette émission sur une période de votre vie qui a sûrement été très forte, très...
On n'oublie pas tout ça. Tous les gens qu'on a laissés.
Je signale
On a trahi.
Ouais, effectivement le mot le plus adapté. Je voudrais rappeler qu'au Secours de France, dont nous sommes les trois représentants ici, avec le général Codet et mon camarade Boissy, nous avons vis-à-vis des harkis et vis-à-vis, je dirais d'une manière générale, de toute cette époque, un engagement très fort.
Oui, je sais.
Vous le savez.
Et je voudrais dire à tous les auditeurs qui nous écoutent que nous avons besoin de tout le monde. Et en particulier, actuellement, nous avons lancé une opération de promotion en direction des petites filles et petits-fils de harkis. Curieusement, et rejoint un peu votre propos, c'est davantage les petites filles qu'on trouve dans cet engagement-là.
Ouais.
Et donc, je dis à nos auditeurs, si dans votre environnement, vous avez des personnes qui correspondent à ce format, c'est-à-dire un bon potentiel, mais un environnement difficile, financier et culturel, alors c'est au Secours de France qu'il faut vous adresser, et nous sommes à votre disposition. Merci mon général, merci mesdames, et je vous dis à la prochaine fois, nous reparlerons encore longtemps et souvent de ce...
Il ne faut pas surtout qu'on oublie les harkis.
Il ne faut pas oublier les harkis.
Vous venez d'entendre le libre journal de Roger Saboureau, assisté de Jacques Codet et Patrick Boissy, document d'archives de Radio Courtoisie du 3 août 2009, diffusé mercredi 25 février 2026 de midi à 13h30. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.